Marthe Marandola nous présente l'ouvrage qu'elle a coécrit avec Geneviève Lefebvre, Cohabiter pour vivre mieux. Elle nous présente cette autre façon d'habiter et de vivre ensemble.
Qu'est-ce que c'est que le cohabitat? Ce que nous appelons le cohabitat, qui, on dit aussi le co-housing, l'autopromotion, l'habitat groupé, enfin tous ces termes-là signifient que des personnes se mettent ensemble pour réfléchir à leur habitation, avec un principe qui est assez simple, qui est que chacun a son espace privatif, comme dans n'importe quel logement, mais qu'il y aura des espaces mis en commun et autogérés par tout le groupe.
Alors, je vous arrête tout de suite, pardon. Ce n'est pas du tout ce qu'on propose aux étudiants de faire de cohabitat, d'avoir simplement une chambre particulière et d'être tous ensemble pour tout le reste. C'est avoir plus d'indépendance et de liberté.
Je vais vous faire une réponse un petit peu nuancée parce qu'il y a des colocations qui commencent comme vraiment, bon, on a quelques mètres carrés, on paye et puis c'est tout, on se dit bonjour, bonsoir. Et vous savez certainement qu'il y a des colocations qui débouchent sur de grandes amitiés et sur des relations amicales vraiment importantes, y compris entre personnes âgées et personnes plus jeunes. Donc en fait, il y a l'esprit du cohabitat. On peut louer ensemble, mais l'idée du cohabitat, c'est qu'on va mettre en commun un peu plus que les mètres carrés. Par exemple, se rendre des services, par exemple, partager des objets, acheter ensemble un outil, le partager. Voilà, c'est ça l'esprit du cohabitat. C'est vraiment raisonner son habitation dans une idée de solidarité et d'entraide avec d'autres personnes. Alors, ce peut être un petit groupe, ça peut être 2, 3, 4 personnes comme nous avons fait, mais ce peut être aussi des immeubles entiers, des quartiers entiers, comme on peut le voir en Allemagne ou en Belgique actuellement.
Le principe des écoquartiers.
Alors, les écoquartiers, c'est une norme qui a été fixée par le gouvernement après le Grenelle de l'environnement et qui donne des indications de qualité, de matériaux et de traitement des déchets et de l'énergie. Ça ne met pas forcément en avant une idée d'entraide des habitants. Vous voyez, il peut y avoir un cohabitat, évidemment, dans un écoquartier, mais il peut y avoir un écoquartier dans lequel les gens sont assez indifférents les uns des autres.
L'écoquartier insiste plus sur l'aspect écologique. Vous, c'est plus sur l'aspect vouloir vivre ensemble et partager ensemble aussi bien des machines. Vous dites aussi dans votre livre une voiture, pourquoi pas, ou des outils.
Pourquoi pas? Je vais vous donner un exemple très concret. Cet été, on va inaugurer à Strasbourg un immeuble d'une dizaine de familles qui est entièrement pensé en termes de cohabitat. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le départ du projet, avant que les plans ne soient créés, il y a un groupe de personnes qui s'est réuni, qui décide de construire ensemble avec l'appui de la municipalité et d'organismes sociaux. Et avec l'architecte, ils réfléchissent aux espaces qu'ils vont mettre ensemble. Vous voyez que les habitants sont totalement impliqués dans le projet. Et eux ont décidé de mettre en commun des chambres d'amis. Comme ça leur gagne des mètres carrés dans les appartements. Ils ont décidé de diminuer de moitié la surface du garage parce qu'ils ont mis des voitures en covoiturage. Et ils ont décidé de faire une grande salle d'activité en commun. Et à partir de là, eh bien, avec l'architecte, il y a un dialogue constant. Ils ont choisi des matériaux écologiques très innovants parce que souvent les porteurs de projets en cohabitat sont des gens qui sont sensibles d'une part à l'écologie et d'autre part à une consommation intelligente, la plus intelligente possible. Donc bien sûr, il y a toute une démarche de réflexion sur les matériaux, sur l'énergie, etc. Et cet été, on va inaugurer ce premier immeuble collectif à Strasbourg. Et je crois qu'il y a des projets qui sont en route dans la région parisienne, à Lyon, à Lille, à Bordeaux. Donc vous voyez, c'est vraiment une idée qui suit son chemin.
En fait, vous partez du constat que plus de la moitié des foyers, c'est-à-dire 13 millions de personnes, ne comptent qu'une à deux personnes et qu'il y a beaucoup de gens qui vivent seuls et qui, de ce fait-là, sont un peu fragilisés.
Exactement. Toutes les enquêtes sociologiques depuis plusieurs années montrent qu'à tout âge de la vie, nous pouvons nous retrouver ce qu'on appelle isolé. Alors quelqu'un d'isolé, c'est pas forcément quelqu'un qui travaille pas. On peut travailler, avoir une vie sociale et se sentir isolé. Se sentir isolé, c'est avoir moins de 4 à 5 contacts personnalisés par semaine, ce qu'on appelle des contacts personnalisés. Ce sont des contacts en dehors de la vie professionnelle et en dehors des contacts utiles comme la boulangère ou les voisins.
Tout
voyez
à fait.
Et à tout âge de la vie, pourquoi ? Parce que des jeunes étudiants, quand on les interroge en faculté, une des premières causes de soucis, c'est l'isolement. Beaucoup de jeunes qui arrivent en faculté à 18, 19, 20 ans se sentent coupés de leur famille et se sentent seuls. Quand on interroge des gens de 30, 40, 50 ans, on va rencontrer une population de gens qui se sentent isolés suite à une rupture affective, un divorce, suite à un changement professionnel qui les a propulsés dans une région où ils ne connaissent personne. Voilà. Et il y a aussi la catégorie des personnes qui travaillent énormément, beaucoup d'heures par semaine, et qui n'ont absolument plus le temps d'avoir une vie sociale, et qui, à un moment, se retrouvent isolées, tout simplement parce que pour avoir des amis, il faut avoir du temps pour entretenir ses amitiés.
Et fragilisées psychologiquement, et ça peut arriver à des actes irrémédiables.
Exactement. Et beaucoup plus tard dans la vie, on a tout un groupe de personnes qui se sentent isolées. Dans tous les départs à la retraite, quand il y a des ruptures avec des vies professionnelles parfois intenses et que tout à coup on se retrouve un peu dans le vide, avec des enfants grands qui sont partis, qui ont leur propre vie, et on peut se ressentir comme étant isolé. Et encore beaucoup plus tard dans la vie, sur des personnes de 80, 85, 90 ans et plus, qui disent très souvent souffrir d'un manque de communication autour d'elles. Donc vous voyez, c'est vraiment à tous les âges de la vie. Et à tous les âges de la vie, le cohabitat peut être une des réponses très intelligentes et vraiment pas si compliquée à mettre en œuvre pour rompre cet isolement tout en faisant des économies.
Alors, je sais que ça existe déjà depuis des années au Danemark, mais les Européens du Nord ont une mentalité un peu différente. Est-ce que vous croyez que ça s'adapte à l'esprit vraiment indépendant et épris de liberté des Français ?
Il faut savoir que le cohabitat a démarré dans notre pays dans les années 70, en même temps que le Danemark. En fait, ça s'est arrêté. Il y a eu une quinzaine de réalisations qui existent toujours, d'ailleurs, qui sont des belles réussites. Ça s'est arrêté pour des questions législatives un petit peu compliquées et parce que à l'époque, il y avait le boom sur le logement individuel et que ma foi, voilà, c'est parti comme ça aux oubliettes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que très nettement, toute l'Europe du Sud se réveille au cohabitat et au partage de l'espace. Et je parle là de la France, de l'Espagne, de l'Italie, c'est-à-dire des pays qui sont réputés comme étant, effectivement, comme vous dites, très individualistes. Pourquoi ça se réveille ? Bien sûr, je ne vais pas vous étonner, ce n'est pas un scoop, il y a une crise, il y a une crise importante. L'accès au logement devient extrêmement compliqué pour beaucoup de gens, même gagnant bien leur vie. Il y a une fragilisation des parcours professionnels. On se dit, oulala, mais demain, si j'ai un problème, qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Donc, il ne faut pas que j'ai un loyer trop fort, il ne faut pas que j'ai des remboursements d'emprunt trop importants. Il y a la sensation, juste, je pense, qu'il y aura de moins en moins d'aide de l'État, et donc il faut se débrouiller un petit peu tout seul.
Oui.
Et il y a également, de toute évidence, de moins en moins d'aide familiale, non pas que la famille ne compte plus, bien au contraire, c'est pas du tout ça, mais que tout simplement chaque génération maintenant a ses problèmes financiers, de santé, ses soucis, et que ça devient beaucoup plus difficile de se passer de l'argent d'une génération à l'autre. Voilà, tout simplement. Oui. Il y a un intérêt sur le cohabitat qui est vraiment important dans tous ces pays dits individualistes. Et nous pensons, Geneviève et moi, qu'il y a un changement de mentalité en ce moment qui est en train de se concrétiser. On le voit par des mouvements comme Voisins en fête, les mouvements de solidarité de quartier, les mouvements pique-nique de quartier, enfin tous ces mouvements-là qui ont du succès. On sent qu'il y a un besoin, un désir de créer de la solidarité à notre niveau, un niveau proche, un niveau de proximité, pour justement échapper à des situations difficiles, s'entraider, se donner des coups de main, avoir des relations, etc.
Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, personnellement, à vous lancer dans ce projet ?
Écoutez, nous étions, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, plusieurs femmes qui toutes avions des carrières professionnelles tout à fait bien remplies, mais des ruptures sentimentales, comme il arrive beaucoup, n'est-ce pas, au milieu de la vie, des enfants grands partis, qui avaient moins besoin de nous, mm-hmm. et on s'est dit, en fin de compte, ben, pourquoi ne pas créer un projet un petit peu innovant ? Voilà, on a eu envie de créer quelque chose qui était en dehors des sentiers battus à l'époque. Bon, on connaissait un petit peu le mouvement, mais enfin, en France, c'était un peu réservé, disons, à des militants écologistes ou à des militants comme ceux qui créent les éco-villages, bon, etc.
Alors, nous, on était un peu marginaux.
Voilà, on n'était pas tout à fait dans cette mouvance-là, mais on a eu envie de faire ce projet. Et effectivement, ce qu'on a vu, c'est que c'était, on pouvait partager des choses. Par exemple, avec Geneviève, on travaille ensemble, donc tout naturellement, on partage un bureau, une connexion Internet. Mmh. Bon, bah, une connexion Internet pour plusieurs, rien que ça, c'est déjà une économie. On partage une chambre d'amis. On partage tout ce qui est outils, jardin, etc., aspirateur. Enfin bon, il n'y a qu'une seule machine à laver. Mmh. Vous voyez, mille petites choses. On s'est dit, ben voilà, c'est une solution vraiment formidable pour avoir le plaisir de rencontrer quelqu'un quand on en a envie, d'être sûr qu'il y a quelqu'un à côté pour vraiment faire des choses agréables, manger ensemble, s'amuser ensemble, etc. Et puis en même temps, avoir son lieu privatif où on peut vivre sa vie de façon tout à fait autonome. On a trouvé que c'était vraiment une solution d'équilibre qui était formidable et on ne le regrette absolument pas.
Je vous remercie beaucoup, Marthe Marandola. Et je ne peux que recommander à nos auditeurs donc, de lire ce livre que vous avez coécrit avec Geneviève Lefèvre, « Cohabiter pour vivre mieux » aux éditions Lattès.